magazine des Nations Unies.
Vous êtes sur la 103.5. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies dont voici les titres. Ebola à Djera dans la province de l'Équateur et neutralisation des FDLR tel que recommandé par le Conseil de sécurité. Deux sujets qui font la une de l'actualité cette semaine. Retour sur ces deux événements dans cette édition. La RDC compte 766 sites hydroélectriques et peut donc s'engager dans une politique énergétique ambitieuse au-delà du programme Dinga, l'une des révélations contenues dans l'Atlas des énergies renouvelables mise au point, notamment avec le concours du PNUD. Dans cette édition, un expert de cette agence onusienne vous en dira plus. Nous quitterons Kinshasa pour le sud Kivu. La cohabitation pacifique entre communautés pose problème dans la plaine de la Ruzizi. Un forum sur la paix organisé la semaine dernière par ONU Femmes à Uvira s'est penché justement sur les stratégies susceptibles de restaurer la confiance entre les populations de cette contrée. Le point sur la rencontre avec notre correspondant à Uvira. Voilà pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et merci d'être fidèle à Radio Okapi. Deux grands événements se sont disputés la une de l'actualité cette semaine. Il s'agit de l'annonce par le gouvernement d'un foyer de fièvre hémorragique à virus à Ebola à Djera, dans la province de l'Équateur, mais aussi de la déclaration mardi dernier des 15 membres permanents du Conseil de sécurité sur la neutralisation des FDLR. Alors, Jean-Pierre Elali Ikoko, vous revenez de congé, bonjour.
Bonjour, Bettina.
Alors, vous vous êtes penché sur le dossier des FDLR. D'abord, que retenir du communiqué de presse du Conseil de sécurité?
Oui, vous l'avez dit, Bettina, les 15 pays membres réaffirment dans une déclaration adoptée à l'unanimité leur soutien à la neutralisation rapide des FDLR. En clair, ils demandent au gouvernement congolais, avec l'appui de la MONUSCO, de tout mettre en œuvre pour mettre hors d'état de nuire le FDLR, parce qu'ils estiment que ces rebelles rwandais constituent une des principales priorités pour restaurer la stabilité en RDC et dans les régions des Grands Lacs. Et toujours selon les conseils de sécurité, les FDLR continuent de commettre de nombreuses exactions, dont le recrutement des enfants soldats, et constituent une menace nationale et régionale. D'où l'importance de les désarmer et de mettre fin à cette menace.
Et pourtant, plus de 2000 rebelles des FDLR ont déjà été démobilisés au nord et au sud Kivu.
Oui, il s'agit exactement de 1400 démobilisés et quelques 4200 dépendants. Ils ont été regroupés dans le deux Kivu, comme vous l'avez dit, dans le cadre du processus DDR et devraient rejoindre un site de transit provisoire à Kisangani, en province orientale, avant d'aller dans les pays d'accueil ou d'être rapatriés. Il s'est fait que pour des raisons propres au FDLR, ce transfert n'a pas encore eu lieu. Ça, c'est en ce qui concerne les groupes de démobilisés volontaires. De l'autre côté, il y a d'autres groupes de FDLR réfractaires à la reddition et ces groupes constituent une menace selon le Conseil de sécurité. Et lors du récent sommet de la CIRGL à Luanda, les chefs d'État de la région ont accordé un délai de 6 mois au FDLR pour leur désarmement. Comme vous pouvez le constater, Bettina, c'est un peu le statu quo et la déclaration du Conseil de sécurité vient justement relancer les débats autour de la question des FDLR.
Restons toujours dans ce chapitre, Jean-Pierre, pour dire que la question de la neutralisation des FDLR a également été abordée lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies, mercredi dernier à Kinshasa, Jean-Pierre.
Y aurait-il des contradictions entre les caractères urgents de la neutralisation des FDLR, la position de la MONUSCO et le moratoire de 6 mois accordé par les chefs d'État de la région à ces rebelles? Écoutez la réponse de Carlos Arrujo, porte-parole intérimaire de la MONUSCO.
Non, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction. Le communiqué de presse dit clairement que le Conseil de sécurité prend note du période de 6 mois qui a été accordée pour le désarmement des FDLR. Le communiqué de presse aussi est en ligne avec tout ce que le SRSJ, M. Kobler, a communiqué au Conseil de sécurité pendant la réunion du début de ce mois. Donc je pense qu'il n'y a aucune contradiction dans cette communiqué de presse et la position de la MONUSCO.
Le colonel Félix Basset, porte-parole militaire de la MONUSCO, abonde dans le même sens.
Aucune contradiction n'est à relever dans ce communiqué de presse parce qu'il est très explicite dans la mesure où il dit de manière très formelle Certes, des efforts politiques sont menés et comme vous le savez, un délai de 6 mois est accordé au FDLR jusqu'en fin décembre 2014. Mais vous savez aussi qu'il y a une évaluation d'étape qui est programmée au mois d'octobre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de ceux qui sont dans le processus de reddition, il y en a qui ne sont pas dans le processus de reddition, qui continuent à recruter des enfants, qui continuent à mener des exactions contre les populations civiles. C'est à cela aussi que s'adresse le communiqué qui stipule de manière très claire que ces gens-là devraient être neutralisés pour éventuellement mettre fin à ces exactions-là.
Merci Jean-Pierre pour cet éclairage dans ce dossier complet concernant les FDLR.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le service anti-mine des Nations Unies, UNMAS, vient de fermer son bureau de Kisangani. Quelles sont les conséquences de cette mesure et bien entendu les nouveaux défis qu'entend relever UNMAS en cette période de la reconfiguration de la MONUSCO? Toutes ces questions et bien d'autres encore sont abordées dans un entretien avec Pascal Simon, directeur des programmes de l'UNMAS. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Pascal Simon, bonjour.
Bonjour.
Le service de lutte anti-mine des Nations Unies et UNMAS vient de fermer depuis le 14 juin dernier son bureau de Kisangani, donc de la zone nord. Pourquoi cette décision alors que la province orientale et le Maniema ne sont pas exemptes des mines antipersonnelles?
Mais en réalité, il s'agit des conséquences de la reconfiguration de la MONUSCO telle que demandée par la résolution du Conseil de sécurité 2098. Souvenez-vous, la MONUSCO doit se concentrer à l'est et en plus, il y a certaines tâches et responsabilités qui étaient conduites par la MONUSCO qui sont maintenant transférées à l'équipe pays. Et donc, en conséquence, on peut dire aujourd'hui que ce transfert de tâches est terminé. La réorganisation des activités d'UNMAS est effectivement terminée également, avec une section de la MONUSCO qui est d'Agoma, et puis une section d'UNMAS qui est attachée à l'équipe pays ici à Kinshasa. Évidemment, en conséquence, les financements de la MONUSCO ont été réduits et nous devons travailler à compenser cette diminution de ressources par des nouveaux financements qui vont venir des partenaires au développement, mais ça prend du temps, bien entendu.
Oui, Pascal Simon, nous allons y arriver, mais est-ce que vous pouvez nous donner la topographie actuelle des mines antipersonnelles et des autres engins explosifs en RDC actuellement?
Oui, en fait, souvenez-vous, comme vous le disiez, nous avons conclu il y a peu de temps l'enquête nationale sur la contamination par mine qui a déterminé que nous avions environ 130 zones contaminées par mine en RDC, représentant, disons, 2 millions de mètres carrés, ce qui correspond à environ 300 terrains de football. Donc la contamination par mine est relativement limitée en termes de surface, mais il y a évidemment une contamination par engin explosif de guerre qui est très très importante et qui se trouve partout où des combats ou des opérations militaires ont été menées depuis les années 70-80 jusqu'aux guerres du Congo dans les années 90 et puis récemment dans les Kivu et dans l'est du pays.
Donc c'est beaucoup plus à l'est.
En ce qui concerne les engins non explosés, oui, c'est plus à l'est. Les mines antipersonnelles, c'est réparti de manière assez équitable sur tout le pays, mais enfin, on a quand même vu qu'il y avait une concentration sur l'Équateur, sur le Katanga, sur le Kasaï occidental et la province orientale. Ces quatre provinces concentrent à elles seules quasiment 90% de la contamination.
Voilà. Et maintenant, on est à l'époque de la reconfiguration de la MONUSCO, vous l'avez évoqué. C'est le bureau de Goma qui met son expertise pour les activités des déminages à l'est. Cela suppose que vous allez aussi augmenter des ressources, tant techniques que financières, monsieur Pascal.
Eh bien non, malheureusement pas dans l'immédiat, puisque comme je le disais, les budgets en provenance de la MONUSCO ont été diminués pour évidemment accompagner le transfert de tâches et de responsabilités à l'équipe pays. Mais évidemment, cela prend du temps pour compenser cette diminution et cela prend du temps pour nous, pour mobiliser des ressources auprès d'autres donateurs. Donc oui, le bureau de Goma sera responsable pour cette zone, mais en réalité, nos capacités d'intervention, nos capacités techniques sont plutôt en diminution.
Vous avez dit tout à l'heure que la responsabilité de toutes les activités relatives est transférée à la partie nationale, donc plus précisément au Centre congolais des luttes anti-mines. Est-ce que les organisations nationales de lutte anti-mine comme AfriLAN, Afrique pour la lutte anti-mine, sont-elles suffisamment outillées techniquement et financièrement pour mener ces activités de déminage? et de pollution.
Oui, alors, en fait, bon, effectivement, c'est l'État hein, qui doit assumer la responsabilité de...
L'État congolais.
L'État congolais qui doit assumer la responsabilité de la coordination, de la gestion du programme national. Évidemment, nous sommes là pour l'appuyer, mais nous essayons également de susciter l'émergence d'organisations nationales, comme l'organisation que vous avez mentionnée, AFRILAM. Ils ont une certaine capacité et compétences techniques qui existent, ils ont des moyens financiers qui sont modestes, mais c'est notre travail, notre responsabilité que de les appuyer dans cette tâche.
Votre tâche va se limiter à l'appui des organisations nationales, mais est-ce que là, votre rôle a diminué? Vous allez fermer vos valises?
Non, alors non, j'espère que non, bien entendu. Hein, notre présence est très importante auprès de la partie nationale, en particulier du Centre congolais de lutte antimine. Hein, l'objectif est de développer ses capacités à gérer ce programme. Nous souhaitons également aider le pays à éliminer la contamination par mine antipersonnel dans les prochaines années, parce que ça, c'est vraiment une priorité pour l'État. Et puis, nous cherchons également à développer des filières de formation en neutralisation ou destruction des explosifs, notamment en appuyant des organisations telles que AFRILAM.
Est-ce que vous les faites déjà ou bien c'est un projet?
Alors, nous commençons. Hein, c'est vrai que l'appui au CLAM a déjà commencé il y a quelques années. Par contre, le développement de capacités et de compétences auprès d'organisations nationales, c'est quelque chose qui est assez récent. Et nous sommes en train de préparer également des stratégies pour appuyer les FARDC et la police nationale.
Et l'opinion soutient quand même le travail que vous faites, donc c'est un travail colossal. Maintenant, vous allez vous retirer un tout petit peu en vous limitant à l'appui. Et quels sont les défis qui attendent maintenant une masse, ses partenaires nationaux sur le terrain, notamment dans l'est du pays?
Bien, je pense que le premier défi, d'abord, c'est de convaincre les partenaires au développement qu'il est important de soutenir le programme de lutte antimine dans ce pays. Il y a un grand nombre de victimes, comme vous le savez. Il faut continuer les activités d'éducation au risque, les activités d'appui aux victimes. Bien entendu, il faut mettre en œuvre des activités de dépollution et de déminage. Et il faut aider l'État congolais à faire face à la menace que constituent les engins non explosés, qui va évidemment exister pendant encore quelques dizaines d'années. Là, je sais qu'il y a beaucoup de challenges et de défis dans ce pays, mais nous sommes convaincus qu'il est très important de poursuivre cet effort.
Pascal Simon, vous fermez votre bureau de Kisangani. Est-ce que cela a un impact sur le personnel de UNMAS?
Oui, bien sûr. Hein, nous avons dû réduire notre personnel parce qu'en plus du bureau de Kisangani, nous
avions également... combien de gens à Kisangani?
Nous avions une équipe d'environ 7-8 personnes hein, à Kisangani. Mais en plus de cela, nous avons également fermé nos bureaux de Mbandaka et de Kananga. Hein, donc nous avons en fait réduit notre équipe de manière assez substantielle. Kindu dépendait de Kisangani.
Ok. Ouais. Je pense que nous venons de faire un aperçu sur cette fermeture et ses conséquences sur le plan de la lutte anti-mine. Est-ce que, Monsieur Simon, vous avez un dernier mot avant de terminer?
Oui, je voudrais quand même mentionner avec une note d'espoir que nous venons de conclure la conférence de Maputo, qui était en fait la troisième conférence de révision de la Convention d'Ottawa sur la mine antipersonnelle. Et la RDC a introduit une demande d'extension pour la période lui permettant d'éliminer les mines antipersonnelles. Cette demande d'extension a été acceptée, donc la RDC a officiellement maintenant jusque fin de l'année 2020, et évidemment l'objectif est d'aider la RDC à revoir la stratégie nationale et à aider la partie nationale à développer un plan opérationnel jusque la fin de l'année 2020.
Et quand est-ce qu'on va débloquer ce montant pour la RDC?
Alors, l'extension a déjà été accordée par les États parties, donc à Maputo, ça s'est passé la semaine passée, et la RDC doit soumettre dans les prochains mois son plan opérationnel pour expliquer comment elle va atteindre cet objectif. Et là, de nouveau, l'assistance d'UNMAS sera importante.
Je rappelle que nous recevions M. Pascal Simon, qui est directeur de UNMAS en République démocratique du Congo. Et c'est le directeur des programmes STGM.
Tout à fait.
Alors,
merci à vous.
En tout cas, nous vous remercions.
Merci à vous.
Nos nouvelles en bref. D'abord, les droits de l'homme. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH, a enregistré en juillet 2014 171 violations des droits de l'homme sur le territoire de la RDC, ce qui représente une baisse par rapport au mois précédent avec 228 violations. Autre précision, les provinces les plus touchées sont celles de l'est du pays, les deux Kivu et la province orientale. Épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, le ministre de la Santé a annoncé jeudi dernier que les chiffres actualisés font état de 42 cas de fièvre hémorragique, dont 6 cas confirmés d'Ebola, 13 cas probables et 23 cas suspects. Félix Kabange Mnumbi affirme que le nombre de décès est toujours de 13 morts, dont 5 agents de santé. Par ailleurs, 168 contacts sont identifiés et suivis. Et pour épauler la RDC contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, la communauté internationale répond à l'appel de fonds lancé en début de semaine par le gouvernement. Des fonds sont ainsi rendus disponibles par le système des Nations Unies, selon le porte-parole de la MONUSCO.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La RDC s'est dotée d'un atlas des énergies renouvelables. Cet atlas a été présenté vendredi 22 août dernier à Kinshasa. Pour en savoir plus sur ce document, le magazine des Nations Unies reçoit M. Idesbald Chinamula. Il est conseiller national en changement climatique au PNUD. Il répond ici aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Idesbald Chinamula, bonjour.
Bonjour.
L'Atlas des énergies renouvelables a été présenté la semaine dernière à la FIKIN, une œuvre conçue et élaborée bien entendu avec l'appui du PNUD, votre agence. Est-ce que vous pouvez définir un peu sommairement ce que vous entendez par l'Atlas des énergies renouvelables?
Il faut préciser tout de suite là que le PNUD a travaillé avec la SNV pour appuyer le gouvernement dans la production de l'Atlas. Donc tout de suite là, Atlas des énergies renouvelables, c'est un outil de promotion des énergies renouvelables de la RDC. Le potentiel est très important. C'est aussi un outil d'aide à la prise de décision. Mais de façon globale, l'Atlas est un outil d'aide à la planification du développement.
Alors comment se présente le potentiel des énergies renouvelables en RDC dans sa composition et sa répartition?
D'abord, il faut dire que ce potentiel est très très riche. Tenez, pour l'hydroélectricité seulement, la RDC dispose de 100 000 MW. C'est un potentiel énorme. Ces 100 000 MW sont largement répartis sur l'ensemble du territoire national. Au-delà de l'hydroélectricité, nous avons également le potentiel en termes solaires. On bénéficie d'une très bonne exposition à l'énergie photovoltaïque. Il y a également la biomasse avec toutes ces variétés. La biomasse, on parle des biocarburants, on parle des biogaz, on parle des biocharbons. Toutes ces possibilités également, la RDC en dispose en abondance. Nous avons également les eaux thermales, on a les gaz méthane, et puis parsemé par-ci par-là, l'éolien, l'énergie du vent.
Quand on parle des énergies renouvelables, on voit plus l'énergie hydroélectrique avec Inga en tête. Donc la RDC peut aller au-delà du programme Inga.
Oui, bien sûr. Inga est une grande bénédiction pour la RDC. Il faut d'abord qu'on le dise. 44 000 MW concentrés sur un seul site, c'est énorme, c'est important. À terme, si Inga est terminé, à sa phase 8, ça fera de Inga les plus importants ouvrages hydroélectriques du monde, avec un potentiel aussi important, parce qu'aujourd'hui, c'est le barrage des Trois Gorges, et qui est basé en Chine avec 22 500 MW. Donc, Inga, c'est très important. Mais le défi, c'est que Inga a vocation d'être plutôt régional, de desservir l'Afrique. Ce potentiel ne peut pas être consommé en RDC. Ne fût-ce que pour Inga 3, on va produire autour de 4 800 MW. Le Katanga, qui est la province minière de la RDC, qui en a besoin, qui consomme, mais son gap aujourd'hui, ça fait 350 MW. Vous voyez donc, avec les 4 800, ce n'est pas pour la RDC. Donc, Inga n'a pas la vocation vraiment de desservir la RDC. Au contraire, il est plus rentable lorsqu'il est exporté, lorsqu'il dessert la région. C'est pour ça qu'il faut trouver un client pour Inga. Voilà toutes les négociations que le gouvernement mène depuis 2-3 ans maintenant pour la phase 3 de Inga. Les négociations sont très avancées, je crois, avec l'Afrique du Sud, peut-être demain aussi avec les Nigériens et consorts. C'est cela qui peut sécuriser en fait le lancement du chantier Inga 3. Donc Inga aussi, par ailleurs, il est excentré, comme on le voit, situé à l'extrême ouest du pays, dans le Bas-Congo, alors que la RDC est très vaste et très large. Donc Inga n'a pas vraiment vocation de desservir toute la RDC à des coûts économiques. Ce n'est pas compétitif si on veut desservir la RDC. Donc il faut aller au-delà. C'est ça la vocation de l'Atlas, c'est ça l'objectif de l'Atlas, essayer de montrer que la RDC a plus que Inga. Nous avons identifié avec l'Atlas autour de 766 sites, alors qu'on connaissait jusque-là autour de 217 sites. Donc là, on a 550 sites supplémentaires qui sont identifiés, étudiés, localisés et qui sont disséminés sur l'ensemble du pays.
Des sites hydroélectriques?
Bien sûr, ça c'est des sites hydroélectriques. Au-delà, bien sûr, des autres informations très importantes, très pertinentes que l'Atlas montre sur les potentiels solaires, comment aussi il est réparti sur l'ensemble du territoire, quelles sont les zones qui bénéficient d'un taux d'ensoleillement plus élevé. La même chose sur les questions de la biomasse. aussi les résidus agricoles. Toute la RDC est une zone de production agricole et ça c'est de l'énergie également qui peut être récupérée, les résidus agricoles, les déchets végétaux, c'est également une source d'énergie importante. Il y a également les autres sources, comme on a parlé des eaux thermales, ainsi de suite. Donc tout ça, l'Atlas essaie de fédérer, de montrer les menus qui convient à chaque territoire et dans chaque province.
Oui, entre autres, l'Atlas parle également de l'énergie éolienne qui n'est pas beaucoup connue en RDC.
Oui, l'énergie éolienne n'est pas très très connue en RDC. Bien sûr qu'il faut l'avouer aussi tout de suite là, que même dans l'Atlas, on a fait des études. La RDC n'a pas un grand potentiel en termes d'énergie éolienne. Avec tout ce que nous avons comme potentiel hydroélectrique, photovoltaïque, biomasse, je pense que l'éolien n'est pas très très compétitif pour la RDC. Ça va coûter extrêmement cher. Mais il y a certaines zones très isolées, un tout petit peu la petite côte que nous avons à Mwanda, un tout petit peu aussi dans le Katanga, au sud du Katanga. Là, on peut développer quelques applications éoliennes, mais c'est vraiment parsemé.
Quelles seraient les régions favorables à telle ou telle autre énergie, avec tout ce qu'on a comme potentiel énergétique en RDC?
C'est ça aussi l'autre information que l'Atlas révèle, c'est toutes les provinces de la RDC. Chaque province a de quoi répondre à ses besoins. Chaque territoire a un menu approprié pour répondre à ses besoins. Ça, c'est extrêmement important. Cependant, on peut dire aussi qu'il y a quand même trois provinces qui sortent du lot, hein, un tout petit peu, avec des situations extraordinaires. Hein. L'Ekmaniema vient en tête des pelotons avec autour de 140 sites hydroélectriques. Nous avons le Nord Kivu qui a 130 sites hydroélectriques et puis nous avons le Bandundu autour de 114, 115 sites hydroélectriques. Mais toutes les autres provinces ont des quoi, s'ils n'ont pas suffisamment de sites hydroélectriques, elles ont des possibilités avec d'autres types d'énergie. Mais l'hydroélectricité est largement distribuée sur l'ensemble.
Quel pourrait être l'avenir de l'énergie solaire en RDC? Le solaire est partout en RDC.
Oui, le solaire est partout en RDC. La province du Katanga vit en tête en ce qui concerne les potentiels importants, malgré les froids apparents qu'il fait là-bas. Mais en tout cas, l'énergie photovoltaïque est très importante au niveau du Katanga. Il y a aussi l'Équateur, malgré aussi l'ombre que la forêt équatoriale nous procure. La province de l'Équateur également a un potentiel très important. Et là, ça devient intéressant parce qu'effectivement, la province de l'Équateur est pauvre en sources d'énergie hydroélectrique. Toutes les rivières sont navigables, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de rapide, et donc cela a comme conséquence de perdre en termes de sources hydroélectriques. Malgré son réseau hydrographique très important, la province de l'Équateur n'a pas beaucoup de sites, en tout cas dans sa partie sud. Sinon, au nord, il y a quelques sites comme Obaimbongo et ainsi de suite, d'autres qu'on connaît là-bas.
Idesbal de Chinamula, dans cet atlas, vous évoquez l'expérience de quelques pays qui pourraient inspirer la RDC dans sa politique énergétique. Que peut-on retenir de l'expérience marocaine, par exemple?
Le Maroc, c'est un cas exceptionnel qui nous frappe toujours. Quand nous avons fait l'atlas, les études qu'on a faites, les missions de terrain, les expériences d'ailleurs d'autres pays, le Maroc nous a beaucoup surpris. Tenez-vous bien, le Maroc était à 18% en 95. Et le Maroc est passé en 2010 à 98%. Ça veut dire 80% des taux de croissance en 15 ans. C'est exceptionnel. On s'est demandé, mais qu'est-ce que le Maroc a fait pour arriver à un tel taux? Effectivement, on a compris que le Maroc a développé un plan ambitieux d'électrification du pays. Le Maroc également a mis en place un fonds très important pour l'électrification rurale. Aujourd'hui, 35 000 villages marocains sont électrifiés. Le Maroc est au nord, on peut dire, mais la Zambie qui est à côté de nous a fait aussi un exploit similaire. En 10 ans, la Zambie a électrifié pratiquement 20% de ses pôles économiques en milieu rural. Donc ça, c'est des exemples pertinents qui sont également comptés dans l'Atlas pour inspirer la politique congolaise.
Monsieur Idesbal de Chinamula, merci.
Rendons-nous au Sud Kivu pour la nouvelle des provinces, un forum de la paix avec l'implication de la femme dans la pacification et le développement durable s'est clôturé mardi à Uvira. Cette rencontre de deux jours a été organisée par le gouvernement provincial en collaboration avec l'ONU Femmes, avec entre autres comme objectif de définir les stratégies et mécanismes de suivi et d'évaluation des recommandations formulées, mais aussi de mettre en place un cadre permanent de concertation intercommunautaire des femmes pour la paix durable à Uvira. Suivez plutôt cet échange entre Fiston Goma et Jean-Pierre Elali Koko.
Bonjour Fiston Goma.
Bonjour Jean-Pierre Elali.
Et dans quel contexte ce forum des femmes s'est tenu à Uvira?
Les organisateurs disent avoir constaté que la situation sécuritaire et même de la cohabitation communautaire s'est dégradée davantage à Uvira, notamment dans la plaine de la Ruzizi. L'insécurité, la haine et le régime mutuel entre les communautés locales ont provoqué l'errance des populations. Les tissus économiques ainsi que les services sociaux de base sont détruits. Des cas de tuerie et de vols de bétail, des destructions des champs deviennent quotidiens. Pourtant, jadis, ces communautés locales, Bafuliru, Barundi, Banyamulenge et les autres, vivaient en harmonie. D'après le vice-gouverneur du Sud Kivu, Gabriel Kalonda, Aujourd'hui, le développement du territoire d'Uvira et celui de toute la province est hypothéqué. Et c'est malgré les énormes potentialités dont il regorge. Les investisseurs hésitent à investir dans la plaine de la Ruzizi. Ce forum a été donc une occasion d'amener les femmes à réfléchir sur leur implication à la recherche de la paix, la sécurité et le développement. Pour la responsable de l'ONU Femmes à Bukavu, c'est la femme qui connaît bien ce qui se passe dans sa famille ou dans sa communauté. C'est donc elle qui peut apporter beaucoup dans la cohabitation pacifique, à l'instar des femmes d'autres cieux, comme au Libéria et en Sierra Leone. Selon l'ONU Femmes, il s'agit ici du début du processus de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies en termes de sécurité.
On imagine, fiston, que les femmes ont parlé franchement. Quelles ont été les solutions proposées aux problèmes soulevés?
Oui, Jean-Pierre, après les exposés et les travaux en carrefour, les femmes ont arrêté certaines stratégies et actions prioritaires. Elles pourront par exemple restaurer les dialogues dans leur famille ou elles devront dire à leur mari ou à leurs enfants d'éviter de rendre les conflits héréditaires. Elles ont besoin de plaider, notamment pour la restauration de l'autorité de l'État dans la Ruzizi, avant toute action de développement. Parce que d'après ces femmes, c'est dans les communautés de la plaine de la Ruzizi que les conflits sont plus exacerbés. Mais les Banyamulenge et les Bafuliro se fréquentent sans problème, notamment dans les autres parties du territoire d'Ouvira, le Moyen et le Haut Plateau, et ici à Ouvira Centre. Les femmes ont donc proposé qu'il y ait permutation de certaines autorités de la police, de l'armée et même de l'administration, que des moyens soient remis au service des renseignements, notamment la DGM Immigration et l'ANR, pour contrôler les mouvements transfrontaliers, et que l'État et ses partenaires pensent à la relance des activités de certaines unités de production agricole, l'élevage et la pêche moderne afin d'absorber le chômage des jeunes et des femmes dans la région.
Toute dernière question, fiston, combien de femmes ont-elles participé à ce forum? Est-ce que toutes les communautés ont été représentées?
Oui, plus ou moins 50 personnes, en majorité les femmes issues des différentes, de toutes les communautés vivant à Ouvira Centre et dans la plaine de la Ruzizi. À la fin, les femmes se sont regroupées selon leur communauté et seront chaque fois consultées pour des actions à mener auprès de leur communauté. On pouvait aussi noter dans les assises la présence de madame la responsable du bureau de l'ONU Femmes à l'est de la RDC, basée à Bukavu, de madame la chef de la division provinciale genre, femmes et familles, et de trois ministres provinciaux et du vice-gouverneur du site Kivu. Voilà tout, Jean-Pierre et Lali.
Oui, merci fiston et bon dimanche à Ouvira.
Merci à vous.
Magazine des Nations Unies, portrait visible.
Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Okapi, moi c'est le Major Keke Panfé, je suis de la République du Bénin, je suis officier supérieur de l'armée béninoise, je suis marié et père de deux enfants, un garçon et une fille. Actuellement au sein de la mission de la MONUSCO, je suis le porte-parole militaire adjoint. Mes tâches quotidiennes se résument à lire les journaux pour dégager l'information utile pour les autorités militaires à travers la revue de presse. Également, lire les comptes rendus militaires des différentes unités déployées et ceux des head office pour être au courant des événements et préparer les conférences de presse de lundi et vendredi avec Goma et celles hebdomadaires du mercredi à partir de Kinshasa. Également, mon job est de faciliter le travail quotidien des journalistes auprès des unités militaires. Et comme c'est le cas actuellement, en absence du porte-parole militaire, je le remplace dans toutes ses fonctions. Bon, pour parler de mon cursus scolaire académique, il faut dire que comme un officier, on a généralement deux cursus. Un cursus militaire et un cursus académique. Pour le cursus militaire, j'ai eu le parcours normal. J'ai fait ma formation d'officier au Maroc. Après, je me suis spécialisé en infanterie des troupes aéroportées en France. J'ai fait le cours de commandant d'unité au Sénégal. Et tout dernièrement, j'ai eu la chance de faire le brevet militaire de premier degré au Gabon. Et comme cursus universitaire, j'ai eu le bac en 1994. J'ai eu une maîtrise en droit, option diplomatie et relations internationales. Également, j'ai un master, option droit de l'homme. Également, j'ai touché un pied de l'anglais où j'ai eu un certificat d'instructeur d'anglais américain. Parlant de mon expérience professionnelle, il faut noter que j'ai eu le parcours normal d'un officier. J'ai été chef de section, J'ai été commandant d'unité. J'ai eu la chance également de commander un bataillon au nord du Bénin. Avant d'arriver ici, j'exerçais les fonctions de chef bureau à la division des opérations. J'étais chef bureau des opérations en cours à l'état-major général du Bénin. Également, j'ai eu une expérience des missions extérieures. J'ai été commandant d'unité dans la mission de l'ONU au Libéria. J'ai été chef des opérations du bataillon béninois en 2006 en Côte d'Ivoire. Et en 2008, j'étais ici dans le Katanga comme chef des opérations du bataillon béninois. J'occupe mon temps libre à lire, à surfer, à faire du sport. J'aime beaucoup les jeux qui ont trait à l'intelligence, c'est-à-dire que les jeux qui développent un peu l'intelligence. Je fais de dames, je fais de l'échec, je fais du sudoku. Également, j'aime la musique, j'écoute beaucoup le zouk. Et il faut noter que mon espoir est qu'en quittant ici, je puisse avoir la chance de faire le niveau 2 du brevet militaire, c'est-à-dire l'école de guerre. Pourquoi pas faire un doctorat après et finir comme... finir comme un fonctionnaire international. Excusez-moi de l'émotion. Alors je vous remercie, j'espère vous retrouver très bientôt.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Le gouvernement congolais a lancé un appel à l'aide de l'ordre de 4,5 millions de dollars américains pour contrer l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la province de l'Équateur. Quelle peut être la contribution de la MONUSCO? C'est la question d'Alain Waikani de la télévision centrale de Chine à laquelle répond Carlos Araujo, porte-parole intérimaire de la MONUSCO. Suivez.
Le lundi, le gouvernement congolais à travers le ministre de la Santé et le vice-ministre des Affaires étrangères avait clairement lancé l'appel à l'aide pour n'est-ce pas, faire face à la situation qui se passe maintenant à l'Équateur, notamment l'aide logistique. Est-ce que la MONUSCO, qui déjà assiste le gouvernement naturellement sur ce plan-là, a déjà fait un rapport peut-être au niveau du Conseil de sécurité pour voir ce qu'il peut faire pratiquement? Qu'est-ce que vous avez déjà essayé de mettre sur pied pour aider le gouvernement?
Il y a eu une demande de soutien. Ce soutien va être logistique. On n'a pas encore les détails parce que la MONUSCO vient de recevoir cette demande et est en train d'étudier quel genre de soutien il peut apporter au gouvernement. Mais je pense qu'il y aura, donc quand je parle de logistique, je parle de transport, je parle des tentes, je parle de nourriture, des choses comme ça. Donc il y aura, donc les détails, on les aura dans les prochains jours. Mais la MONUSCO va soutenir le gouvernement sur le plan logistique. Sur le plan des financements, vous savez que le gouvernement a lancé un appel de 4,5 millions de dollars pour combattre l'épidémie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du système des Nations Unies, donc vous savez que le gouvernement a dit déjà qu'ils ont 1,5 million. Au système des Nations Unies, 1,5 million aussi va venir de ce qu'on appelle des pooled funds. Pooled funds, c'est un mécanisme de financement où les bailleurs mettent l'argent pour répondre aux besoins humanitaires en RDC. Et ça, c'est géré par l'OCHA. Donc ça, c'est déjà disponible. 1,5 million, déjà disponible. Un autre 1,5 million est en train d'être demandé. C'est-à-dire, il y a un appel, un cours. Et ça va venir du CERF, Rapid Response. Donc ça, CERF, c'est un mécanisme de financement basé à New York, qui est géré aussi par le OCHA, et qui répond, et par le PNUD, et qui répond aux besoins humanitaires dans tout le monde. Donc un appel a déjà été fait d'1,5 million, est en cours, donc on a de bons espoirs qu'on va avoir aussi 1,5 million de ce côté-là.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capu.
Quelques rendez-vous à retenir dans le calendrier des conférences et réunions de l'ONU du 1er au 5 septembre. Se tiendra à Genève la 21e session du Comité pour la protection des droits des travailleurs. Et du 2 au 5 septembre se tiendra en même temps à New York la 2e session ordinaire réunissant le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, le Fonds des Nations Unies pour la Population, FNUAP, et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Ce numéro a été coordonné par Jean-Pierre Elali Coco sous la supervision de Julien Yamouni. Honoré Missenga était au reportage, Willem Lungamba à la régie et Lydie Bettina à la présentation. Vous pouvez réécouter votre émission sur notre site internet radio-okapi.net. Bon dimanche chez vous.